Bonjour à tous et à tous. Il est 15h, c'est l'heure de voyage au fil des mots. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour.
Bonjour Emmeline, bonjour à tous.
On va commencer cette émission avec encore des petites fables sympathiques avec des animaux comme lors de la dernière émission.
Oui, je trouve que c'est adorable. Enfin, personnellement, je trouve que c'est adorable. Il y a toujours
pareil.
Une petite moralité, ça apprend un peu la vie. Et c'est des textes que j'ai retrouvés et j'en suis tombée un petit peu amoureuse.
Avec des textes tout simples,
on a
des leçons
tout simple,
formidables.
Tout court, tout, voilà. Et qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Le premier, Emmeline, s'appelle « L'alouette et ses petits ». Une alouette fit un jour son nid dans un champ de blé, mais lorsque le blé commença à mûrir, elle se fit du souci pour sa couvée, craignant que les moissonneurs ne vinssent lui enlever ses petits et ne les tuassent. Aussi, avant d'aller chercher leur béquet, recommanda-t-elle tous les jours à ses petits d'écouter ce qui se disait pour savoir quand il serait temps de décamper. Un jour qu'elle était absente, le paysan vint et, voyant que le blé était mûr, dit « Il est temps de rentrer la récolte. Je m'en vais demander aux voisins de venir m'aider. » Les oisillons en émoi rapportèrent ces paroles à leur mère. « Nous n'avons nul sujet de nous inquiéter, » dit-elle. « S'il attend que ses voisins viennent l'aider, il risque d'attendre longtemps. » Le lendemain, le paysan revint. « Ce blé est mûr, » dit-il. « Il nous faut le rentrer. Va, mon fils, demander à nos oncles et cousins et de venir nous aider à moissonner. » « Maintenant, il faut sûrement partir !» se dirent les petits oiseaux. « Ses parents, eux aussi, ont des champs à moissonner !» répondit l'alouette. « Il n'est pas temps encore de nous en aller !» Le troisième jour, le fermier revint et vit que ses blés trop mûrs ployaient sous le ploi des épis. « Nous ne pouvons attendre plus longtemps, » dit-il. « Va, fils, engagez des moissonneurs, et nous nous mettrons nous-mêmes à la tâche demain. » « C'est maintenant qu'il faut partir, » dit l'alouette. « Lorsqu'un homme décide de s'occuper lui-même de ses affaires au lieu de se reposer sur les autres, c'est qu'il le fera. »
Un poème sur l'apprentissage de la sagesse, c'était donc l'alouette et ses petits. Et maintenant, on va aller vers la corneille et la cruche.
Oui, un petit texte pareil. Si l'on ne peut arriver à ses fins du premier coup, il ne faut pas jeter le manche après la cognée, comme on dit. Donc avec de l'ingéniosité et de la persévérance, ce qui paraissent impossibles, devient tout à fait réalisable. C'est la leçon de Corneille d'Ésope, tu vas voir. Une corneille altérée vit une cruche au bord d'une rivière. Toute joyeuse, elle vola jusqu'à elle. Mais... hélas, ses espoirs se trouvèrent déçus car, bien qu'il y eût de l'eau dans la cruche, elle était si basse que la corneille ne pouvait l'atteindre. Mais elle essaya bien de renverser la cruche, mais elle était trop lourde. La corneille assoiffée désespérait de boire lorsqu'elle aperçut des pierres qui se trouvaient là. Elle eut soudain une bonne idée. Elle les laissa tomber une à une dans la cruche jusqu'à ce que le niveau de l'eau fût assez haut pour lui permettre de boire tout son soûl. Persévérance et présence d'esprit nous permettent souvent d'obtenir ce que nous désirons. C'est mignon.
C'est mignon. Et maintenant, ce sont des extraits d'un recueil de John Gay.
Oui, tout à fait. Il a écrit effectivement un recueil de 51 fables en vers qui a été publié, Emmeline, en 1727. Donc, tu vois.
Oui.
Et voilà. Donc là, celle qu'on va lire en est tirée. C'est une histoire, le chien de berger, et le loup. C'est le loup qui, dans cette fable, tu vas voir, a le beau rôle. D'ailleurs, on soupçonne fort le berger et le chien d'en vouloir au loup. Non pas pour l'amour des moutons, mais parce qu'ils lui volent leurs biens, tout simplement. Un loup, par la faim enhardie, écumait la contrée, pillait la bergerie. Tout au fond des forêts, en sûreté tapis, il festoyait le jour des larcins de la nuit. Vaine la veille du berger, vain ses efforts, vain ses lacets, vaine la ronde du chien. Le brigand filait comme l'ombre, maître Guillot ne voyait rien. Un jour, que le matin courait la forêt sombre, il tomba sur le gîte de son ennemi. « Signons un armistice et causons en amis. »« La trêve ?» fit le loup. « J'y consens volontiers. » Le chien engage ainsi les pourparlers. « Comment fait ce cœur intrépide pour attraper un peuple si faible et timide ?»« Ses mâchoires devraient, il semble, faire choix d'une plus noble proie. » Et s'abeuver du sang de lion, du sanglier, bref, du sang des rois. Épargne l'innocent, épargne nos agneaux. Exerce ton ardeur, mais pas sur nos troupeaux. Mon ami, dit le loup, je t'en prie, considère que nature nous fit, nous autres pauvres hères, bêtes de proie, et qu'il faut bien que chacun vive. Si ton cœur, pour les agneaux, brûle d'une flamme si vive, va t'en trouver ton maître. Et redis-lui ces mots. Certes, le loup mange un mouton de temps en temps. Les hommes, quant à eux, les égorgent par sang. Mieux vaut, tu peux m'en croire, un ennemi juré que l'ami prétendu qui vous vend au boucher.
Ah, j'avoue que celle-là, elle me plaît. Une bonne leçon pour vous.
Voilà, il faut toujours se méfier, effectivement. Et on est toujours avec John Gay, donc dans une autre histoire, qui s'appelle celle-ci « Le Paon, le Dindon et l'Oie ». Là, John Gay veut montrer dans cette fable, si tu veux, l'envie qui fait découvrir chez une belle personne des imperfections qui ne paraîtraient pas chez une autre. Voilà, donc on cite les mauvais points pour faire apparaître les meilleurs. La moindre imperfection au front de la beauté comme tache sur neige saute aux yeux des censeurs. Un certain paon, poussé sans doute par la faim, s'en vint un beau jour se mêler à la voraille pour picorer du grain. Tous aussitôt l'envient, mais tous aussi le raillent et moquent à l'envie sa brillante livrée. Mais l'oiseau de Junon l'étoise avec fierté, dédaigne les censeurs, garde sa dignité et déploie au soleil son plumage ocellé. Cette roue irisée, ces brillants coloris leur échauffent la bile, excitent leur envie. On critique, on dénigre, chacun de caqueter qu'il n'a jamais rien vu d'aussi laid que le paon. « Voyez, dit le dindon, avec quelle insolence cet animal se pavane en marchant. A-t-on jamais rêvé pareille suffisance et rencontré oiseau vaniteux à ce point ? Or, s'en aller chercher plus loin, nous avons, nous dindons, la peau beaucoup plus belle. » Mais c'est au tour de l'oie de venir persifler. Combien est laid ce pied, disgracieux, c'est elle. Ce cou est écailleux à vous en dégoûter. Rien qu'à le voir, la chouette en a les hauts le cœur. Ce sont là des défauts, je l'avoue sans aigreur, dit le paon. Raillez, si cela doit vous plaire, mes pattes et mon chant, messieurs mes contempteurs. Mais seriez-vous aussi sévère, et me serviriez-vous tous ces beaux compliments, si ces mêmes défauts n'étaient chez vous présents ? Pas un mot de ma traîne ? Et rien sur mon aigrette, mesdames les faiseuses de comparaison ? Il faudra donc qu'il ait raison, celui qui dit un jour que la critique envieuse ne voyait que la paille et ignorait la poutre. Me daignez que je passe outre. C'est ainsi que j'ai vu dans maintes assemblées les minois les plus fins, les plus fières beautés en butte sous les lustres aux traits noirs de l'envie, par les laides moqués, raillés par les harpies.
Comme quoi, avec des animaux, on peut faire passer plein de choses.
Plein de messages.
Pour nous, voilà. Les êtres humains. Et maintenant, on va enchaîner avec un tout autre style, puisqu'on va faire un tour en Provence.
Oui.
Tu nous as trouvé trois jolis contes de Provence. On va se mettre en ambiance directe avec les gabions.
Le premier conte s'appelle « Le refuge de Maître Jacques ». Lorsqu'il quitta la Judée, Maître Jacques n'emporta rien que son savoir-faire. Et c'était bien suffisant. Personne n'avait son pareil pour dessiner les plans d'un temple ou d'une simple maison, pour donner du cœur aux pierres, de l'âme aux charpentes, des ailes aux toitures et de l'esprit aux fenêtres. Mais son talent lui attira la haine d'un autre architecte du nom de Soubise, qui avait aussi ses émules tout autour de la Méditerranée et ne supportait pas de lui être comparé. Lorsque maître Jacques débarqua en Provence, il crut s'y refaire une seconde vie. Dans la première ville où il s'arrêta, il avisa un groupe de solides gaillards et leur demanda du travail, afin de gagner quelque argent et de pouvoir s'installer. « Que sais-tu faire ?» lui demandèrent les habitants. « Je sais construire des maisons, des palais et même des temples. »« Oh, tu pourras donc nous être utile !» dit un noble attablé devant un verre de vin. « Quel est ton nom ?» questionna un autre. « On m'appelle maître Jacques, et l'on dit de moi que je donne du cœur aux pierres, de l'âme aux charpentes, des ailes aux toitures et de l'esprit aux fenêtres. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. Puis des cris de rage fusèrent. « Nous sommes compagnons de Soubise, que le diable t'emporte et fasse s'effondrer tes œuvres !» Ils le battirent et le poursuivirent à coups de cailloux jusqu'aux abords d'un marais. Le pauvre homme se jeta dans les eaux. Il nagea dans les fonds vaseux, n'osant remonter à la surface où il craignait encore d'être la cible des frondes et des couteaux. À bout de souffle, il arracha un jonc, le glissa dans sa bouche et s'en servit pour respirer. Il demeura ainsi jusqu'au soir. Ses ennemis le crurent noyé et rentrèrent chez eux. À la nuit tombée, tout trempé, couvert d'herbes et de boue, grelottant de froid, l'architecte sortit du marais et reprit sa route en direction d'une montagne dont l'ombre noire se découpait sur la lune. Il en grimpa les pentes raides, tenant toujours dans sa main le petit jonc qui lui avait sauvé la vie. Au détour d'un sentier escarpé, il aperçut l'entrée d'une grotte et y pénétra. À l'intérieur, il s'allongea et s'enfonça dans un profond sommeil. Au matin, il s'aperçut qu'il avait dormi sur un lit de longs cheveux blonds. Oh, il n'eut pas le temps de s'en étonner qu'il entendit des voix lui dire « C'est la grotte de Marie-Madeleine !» Elle y vivait dans un dépouillement total, vêtue seulement d'une chevelure indéterminable. L'architecte sursauta. « Qui êtes-vous? Ne me battez pas !»« Maître, nous sommes vos compagnons. Depuis notre jeunesse, nous admirons vos œuvres et tentons de vous imiter. Nous vous avons cherché toute la nuit. Demeurez cachés ici. Une source y jaillit pour laver les mains de la sainte. Vous pourrez y boire à loisir et nous vous apporterons à manger. » Puis, les jeunes gens s'en allèrent. Jacques vécut ainsi de longs mois, aimant à regarder danser les chardons bleus dans le vent qui les agitait à l'entrée de sa taverne. Tous les jours, à l'heure où le soleil se couche, ses compagnons fidèles venaient lui rendre visite avec un panier empli d'olives, de pain et de fromage. Ensemble, ils conversaient longuement sur leur métier. Maître Jacques leur donnait des conseils précieux et leur recommandait souvent de mettre toute leur ardeur à l'ouvrage. Grâce à lui, les garçons progressaient et seraient bientôt à même de construire eux aussi des maisons qui deviendraient de purs chefs-d'œuvre. À son exemple, il donnerait du cœur aux pierres, de l'âme aux charpentes, des ailes aux toitures et de l'esprit aux fenêtres. Les admirateurs de Soubise ne tardèrent pas à repérer leur manège et, un soir, décidèrent de les suivre. Ils repérèrent l'endroit où se cachait maître Jacques, qu'ils avaient cru mort. Puis, ils attendirent que ses amis l'eussent quitté. Alors, ils pénétrèrent dans la grotte, se jetèrent brutalement sur lui et le frappèrent de 5 coups de couteau avant de prendre la fuite sur le sentier où dévalaient les rocailles. Quand les jeunes gens revinrent pour bavarder avec leur maître et lui apporter son repas, ils le trouvèrent agonisant. Il eut le temps de murmurer « N'essayez pas de me venger, ce serait d'inutiles batailles. Songez plutôt à préserver le souvenir de mes travaux et poursuivez mon œuvre en y mettant toute votre ardeur et le savoir-faire que je vous ai transmis. » Ensuite, il rendit le dernier soupir. Avant de l'ensevelir dans la grotte, ses disciples lui firent un brin de toilette. Dans l'une de ses poches, ils trouvèrent le petit morceau de jonc qui lui avait sauvé la vie, et ils décidèrent d'en faire leur emblème. Pour le mettre en terre, ils lui ôtèrent ses vêtements et se les partagèrent en souvenir de lui. Enfin, ils redescendirent en ville. Là, ils racontèrent à tous les artisans ce qui était arrivé. Ils offrirent son chapeau au chapelier, qui le mirent dans leur vitrine afin de modeler les leurs à son image. Ils donnèrent sa tunique au tailleur de pierre qui inlassablement copièrent sa façon de tailler le roc en essayant de lui donner du cœur. Ils abandonnèrent ses sandales chez les serruriers, sa ceinture au charpentier, son manteau au menuisier. Et tous tentèrent d'imiter, dans leur souci de la belle ouvrage, le talent de Maître Jacques. C'est pourquoi, depuis des siècles, qu'il fasse beau ou mauvais temps, que darde le soleil ou souffle le vent, tous les compagnons du devoir rendent visite à Maître Jacques dans son refuge entouré de chardons, sur un versant de la Sainte-Baume.
Il reste en Provence avec un conte sur l'amour qui s'appelle La Biche et le Barbare.
Oui, tout à fait. Alors, celui-ci, La Biche et le Barbare.
Non, Lucan, t'as rien plus, l'ouraga des Marcia. Non, Lucan, t'as rien plus, l'eau micro est rompu. Non, Lucan, t'as rien plus, l'ouraga des Marcia. Non, Lucan, t'as rien plus, l'eau micro est rompu. L'eau fora pétassa, nous disiez la tchourmetta. L'eau fora pétassa, qui tourna rien dans ça. L'eau fora pétassa, nous disiez la tchourmetta, l'eau fora pétassa, qui tourna rien dans ça.
Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus, tout est à la ramasse. Je vois ma ville partir à la casse.
Autrefois, la mer baignait les franges de ces lieux. Mais la terre mangea sur les eaux et la mer se retira. La forêt prit sa place, peuplant de sangliers, de biches et de chevreuils, le sol jadis couvert de flots porteurs d'éponges, de méduses, de coquillages, d'hippocampes et autres poissons. Fuyant l'agitation de la ville d'Arles, un vieil homme auquel sa sagesse avait valu le nom de Saint-Gilles vint se retirer dans la pénombre épaisse des taillis. Il y construisit une cabane de branches et de feuillages et vécut là, totalement solitaire, dans le dénuement le plus absolu, se nourrissant de baies sauvages et s'abeuvrant à l'eau claire d'une source. Un soir, dans le silence à peine troublé par les chants d'oiseaux, il entendit un froissement de broussailles. Scrutant l'obscurité du sous-bois, il vit luire deux grands yeux brillants. « Une bête sauvage, sans doute un sanglier, » songea-t-il, en se retirant prudemment derrière un gros tronc d'arbre. À peine se fut-il caché que l'animal surgit et se précipita pour boire à la source. Il s'agissait d'une biche, farouche et gracieuse, qui, tout en se désaltérant, jetait alentour des regards apeurés. Soulagé, l'ermite éclata de rire. Prendre une biche pour un sanglier. La solitude m'a rendu fou. Le bruit de sa voix effraya l'animal craintif qui bondit aussitôt et s'enfuit dans les taillis. Hey, attends, oh jolie biche, ne m'abandonne pas, cria le vieil homme, avide soudain de compagnie. Mais le silence s'était refermé autour de la cabane et de la source. Même les oiseaux se taisaient pour la nuit, avant que les chouettes et les hiboux ne vinssent prendre leur relais, bien sûr. Gilles passa plusieurs jours dans la solitude qu'il avait choisie. Mais elle lui pesait, à présent. Il s'imaginait volontiers vivant auprès de la jolie biche entrevue. Sa présence lui manquait. Même s'il avait peine à se souvenir de la nuance de son pelage, de sa taille et de sa corpulence. Était-elle grande, petite, brune, fauve, oh, je ne sais plus. Pourtant, elle m'a paru si belle et si douce. Tandis qu'il se désolait, il entendit à nouveau un frissement dans les branches. Fou d'espoir, il se dissimula encore en retenant son souffle. Et la biche apparut, avançant d'un pas hésitant vers la source. Tandis qu'elle penchait son cou vers l'eau cristalline, l'ermite la contempla. C'était bien la plus jolie biche qu'il eût jamais vue. Ses jambes fuselées avaient, au-delà de ses sabots, comme de hautes soquettes blanches. Son long cou mince ployait vers le sol avec la grâce infinie d'une liane courbée par le vent. Et ses yeux en amande possédaient un regard si humain qu'il semblait compenser l'absence de paroles du fameux eau tendre et racé. Bien décidé à ne pas l'effrayer, Gilles ne trahit pas sa présence et demeura immobile. Lorsque l'animal repartit, une sourde angoisse étreignit le cœur du vieil homme. Et si elle ne revenait pas? Mais la biche avait déjà, malgré sa première frayeur, repris le chemin de la source. Aussi résolut-il de faire confiance au destin qui les avait réunis, lui, le vieillard solitaire, elle, la grâce de la nature. Bien lui en prit, car l'animal revint, chaque soir, s'abeuvrer à l'eau limpide. En son absence, Gilles déposait des herbes fraîchement coupées et délicieusement odorantes, près du rocher où elle jaissait l'écume. Au début, la biche les flaira sans y toucher. Puis, elle se laissa tenter. Enfin, elle s'y habitua tant et si bien qu'elle sembla trouver autant de plaisir à ce repas qu'à la boisson revigorante qui la désaltérait. Au bout d'un mois de ce manège, Gilles osa enfin se montrer. Quand elle l'aperçut, la biche eut un mouvement de recul et il pensa qu'elle allait se sauver à jamais. Avec une infinie douceur, il tendit la main. « Ne crains rien, petite. Je ne te veux aucun mal. C'est moi qui te nourris ici, chaque soir. » Et l'animal s'immobilisa. Puis, vint lécher les doigts qui s'ouvraient vers lui. Dès lors, la biche et le vieil homme vécurent une bonne entente. Il lui parlait comme à une amie. Elle l'écoutait. Et son regard répondait mieux que ne l'eût fait un être humain. Gilles l'entretenait de la fureur et de la méchanceté des hommes, ainsi que de cette perle de bonté qu'il fallait aller chercher loin, loin, loin au cœur, au plus profond du cœur. Le bruit des troubles et des guerres ne parvenait pas jusqu'à eux. Ensemble, ils coulaient des jours heureux dans la forêt profonde, ignorant tous deux que Wambo, le roi des Visigoths, avait envahi la région et comptait bien y imposer sa loi, aidé par ses fils, tous vaillants et cruels guerriers. Or, un matin, la terre trembla sous les sabots d'une horde de chevaux. Le silence des arbres fut déchiré par les aboiements d'une meute de chiens féroces et les cris excités des chasseurs. Réveillé en sursaut, l'ermite chercha autour de sa cabane son habituelle compagne. Mais elle avait disparu, sans doute effrayée par la cavalcade et les hurlements. Un instinct immémorial l'avait poussé à se réfugier au plus profond des taillis. Inquiet, Saint-Gilles ne trouva cependant rien d'autre à faire que de l'attendre près de la source. Un long moment, la forêt résonna de piétinements sourds et de piaffements, de coups de trompe et de cris rauques, d'ordres hurlés et d'aboiements. Puis, les herbes frissonnèrent à l'orée de la clairière et la biche apparut, le cou ensanglanté. Elle vacilla jusqu'à la source, au bord de laquelle elle s'effondra, la tête penchée vers l'eau claire. L'ermite se précipita à son chevet pour laver ses blessures. Quand il l'eut fait, il s'apprêta à tirer l'animal vers sa cabane afin de l'y cacher. Mais les chasseurs surgirent avant qu'il n'y parvînt. « Cette proie est à nous !» cria un jeune chef. Faisant face, main nue, à ses hommes armés, le vieil homme répondit « Cette biche n'appartient à personne, pas même à moi. Quel honneur de sa présence quand elle le souhaite !» Les chasseurs éclatèrent de rire. « Vieux fou, pousse-toi, nous allons l'achever !» Comme le vieillard ne bougeait pas, l'un des cavaliers s'approcha et le bouscula d'un geste brutal qui l'envoya valser dans les herbes. « Allez les chiens, attaquez !» hurla le chef des Visigoths. Mais un grand silence se fit. Pétrifié, la meute contemplait la biche qui léchait calmement ses plaies, tandis que Gilles, qui avait rampé vers elle, la caressait d'un geste plein de compassion. Peu à peu, les chiens avancèrent, comme fascinés par l'amour qui unissait l'homme et la bête. Au lieu de se précipiter sur leur gibier, ils se mirent à le renifler, puis à japper et à le lécher avec hésitation, ensuite presque joyeusement. Surpris, les guerriers baissèrent leurs armes. « Il doit y avoir là-dessous quelque sorcellerie !» déclara le jeune chef. « Rentrons et allons raconter ce prodige à notre père. Lui seul saura ce qu'il faut décider. » Les cavalières tournèrent bride. La meute se rassembla et, dans un nouveau bruit de tonnerre, la horde entière s'enfonça à nouveau dans les bois. Demeurés seuls, Saint-Gilles et la biche se réfugièrent dans la cabane. Dès l'aurore, ils furent à nouveau éveillés par les cavalcades et les cris. Le roi Wambo, en personne, guidé par ses propres fils, avait retrouvé le chemin de la source. Il vit la biche aux socques blanches. Il vit le vieillard solitaire. Aucune trace de peur ne hantait leur regard et les blessures avaient disparu du col de l'animal. Alors, le souverain rebroussa chemin et les hurlements de sa meute disparurent à jamais au lointain.
Et comme quoi, encore une fois, les animaux, on a beaucoup à apprendre d'eux.
Tout à fait. Et l'amour aussi, l'amour qui est très fort.
L'amour qui ressort de ce conte, un très très joli conte, merci. On va enchaîner avec le Seigneur et le Troubadour.
Le seigneur troubadour et le château d'amour. Dans ce château d'amour vivaient les dames de haute noblesse qui s'adonnaient au plaisir des arts et de la courtoisie. Sous les voûtes résonnaient les voix des baladins et les accords de leur lutte. Sur les pavés glissaient agilement les chausses des danseurs et des acrobates. Dans les chambres se chuchotaient les strophes de poèmes galants. C'est en rentrant de Terre Sainte, où il avait mené croisade contre les infidèles, que le seigneur de Molégès, Pierre de Châteauneuf, entendit parler de ce lieu et des belles qui y régnaient avec grâce et délicatesse. Leur nom même le faisait rêver. Alassasie, Isoarde, Béatrix, Stéphanette. Et pour elles, il composait déjà, dans les nombreuses cours où il était invité depuis son retour en Provence, des chansons d'aube, des ballades et des pastourelles qui faisaient se pâmer les guerriers, les écuyers ou les pages, presque autant que la gent féminine. Son renom de poète atteignit le château d'amour et les oreilles fines des dames qui l'habitaient. Par les marchands et les saltimbanques qui sillonnaient les routes de la province, ils lui firent alors savoir qu'il serait le bienvenu entre les murs où elle l'attendait avec impatience et curiosité. Flatté et curieux, lui aussi, de rencontrer ces femmes dont tout le monde vantait la sensibilité, le charme et l'intelligence, le vaillant homme se rendit à leur invitation et, grimpant sur son destrier, portant son luth en bandoulière, il s'enfuit par mont et vallée vers ce château plein de délices. Au cours de son voyage, il atteignit, dans les Alpilles, une forêt de chênes d'une telle épaisseur que la lumière avait du mal à filtrer entre les branches touffues. Hormis les pas de son cheval qui sonnait sourdement sur la terre comme les battements d'un cœur, pas un bruit ne provenait des fourrés, comme si les oiseaux avaient cessé de chanter, les feuillages de frissonner, la brise de respirer. La nature entière retenait son souffle devant l'imminence d'un danger imprécis. Mais lorsque l'on a combattu de l'autre côté des mers durant de longues années, on ne se laisse pas impressionner par un silence, fût-il dans la forêt la plus dense, poussant sur des pentes les plus escarpées que l'on ait jamais vues. Aussi, Pierre de Châteauneuf continua-t-il son chemin en fredonnant un refrain qu'il composa à l'intention de la comtesse de Provence. Tout à coup, une horde hurlante et menaçante surgit des buissons. Une dizaine de brigands, hirsutes, armés jusqu'aux dents, lui barrèrent la route. Le cheval du voyageur se cabra. Mais il en fallait davantage pour désarçonner un cavalier aussi chevronné. Alors, l'un des bandits attrapa la bride et tira sur le mort. Hennissant de douleur, l'animal bondit, rua et se cabra encore. Son maître, habitué à de plus rudes chevauchées, demeura tout de même en selle. Aussi fallut-il qu'un autre des voleurs s'accrochât à sa jambe pour le faire tomber. Sitôt à terre, le seigneur fut assaillé de coups de poing, de coups de pied. Étouffé par le poids de ses ennemis, il fut obligé de se rendre et de se soumettre à leur volonté. Sans scrupule, ils le dépouillèrent de sa bourse où tintaient pièces d'or et argent. Ils lui arrachèrent son luth, dont il ne savait trop quoi faire, mais qu'il se proposait de vendre à quelques marchands ambulants. Enfin, ils lui ôtèrent ses habits, qu'ils trouvaient fort à leur goût. Nu comme un ver, le preux chevalier comprit que sa dernière heure arrivait lorsqu'il vit luire les poignards entre les mains de ses agresseurs. « Oh, ai-je traversé indemne tant de batailles, échappé à tant de dangers dans de lointaines contrées, pour mourir sur la terre qui m'a vu naître ? Une chanson aux lèvres !» se dit-il avec une certaine mélancolie. Les lames se dressaient déjà au-dessus de sa poitrine quand une idée lui traversa l'esprit. « Attendez, attendez, attendez » cria-t-il. « Je suis chevalier, mais chevalier poète. Je désire affronter la mort en chantant une dernière fois, afin d'entrer au ciel sur quelques rimes bien tournées et sur un air bien cadencé. » Suspendant leurs gestes, les brigands se consultèrent du regard. N'ayant jamais ouï de leur vie le son d'un luth, plusieurs d'entre eux étaient curieux d'en écouter quelques accords. Et, puisqu'il ne s'agissait que de différer le sort de leur victime le temps d'un refrain, ils accédèrent à son ultime vœu. On rendit son instrument au seigneur et on fit cercle autour de lui pour l'entendre autant que pour le surveiller. Aux premières vibrations des cordes, les feuillages de la forêt se remirent à frissonner et la brise à soupirer d'aise. Aux premières notes dans la gorge du chanteur, les oiseaux se mirent à l'accompagner comme s'ils connaissaient sa chanson. Envoûtés, les brigands laissèrent leur prisonnier improviser une strophe, puis deux, puis trois, et le poète, enchaînant les vers, les rimes et les accords, composa aussi longtemps que son imagination le lui permit une interminable ballade à la gloire de ses agresseurs, vantant leur force, leur habileté, leur courage et leur goût de la liberté, il flatta leur orgueil autant que leurs oreilles, ponctuant du même refrain les épisodes de son chant. Bientôt, les brigands en apprirent les mots sans cesse répétés et les reprirent en chœur, à pleine voix, en frappant dans leurs mains. À la fin, alors que le chevalier se résignait enfin à mourir sous ses coups, ils jetèrent leurs poignards pour applaudir avec tant de frénésie que quelques pierres dégringolèrent des pentes des montagnes pour venir se briser contre le tronc des arbres. Sous les ovations, on rendit à Pierre de Châteauneuf ses vêtements, sa bourse et même sa monture. Au lieu de s'empresser de se sauver, le chevalier s'adressa à ces cœurs sauvages qu'il avait émus. « Pourquoi vivre de meurtre et de pillage alors que le monde est si plein de beauté ?» leur demanda-t-il. « Bah parce que nous avons faim !» répliquèrent les gueux. « La beauté ne nous nourrit guère !»« Venez donc avec moi !» décida le seigneur, troublé à son tour. C'est ainsi que, sur la route de Romanin, qui menait au château d'Amour, on vit arriver, caracolant sur son cheval, Pierre de Châteauneuf, vêtu de son pourpoint de velours, le luth en bandoulière, escorté d'une bande de manants dépenaillés et chantant à tue-tête. Connaissant la fantaisie du chevalier troubadour, les esquidames ne s'offusquèrent pas de cet étrange équipage. Elles firent baisser le pont-levis et ouvrirent grand les portes de leur château où résonnèrent les sabots, les plaintes du luth et la voix du voyageur, soutenues par celles de ses compagnons. Ceux-ci firent ripaille jusque tard dans la nuit. On dit qu'au matin, certains d'entre eux rejoignirent les bois le ventre plein, mais que d'autres demeurèrent en ce lieu plein de délices où ils apprirent à danser, à jongler et à pousser la ritournelle pour tout le restant de leur vie.
Eh bien, c'est une bonne...
C'est une gentille petite histoire.
Voilà, une bonne fin pour cette petite session voilà conte de Provence.
Voilà, on peut faire de brigands.
Oui. D'ambiance pour aller faire un tour en Égypte. Dominique, on continue sur la lancée de Ptolémée.
Oui, tout à fait. Donc, je rappelle, c'est vrai, donc, à nos auditeurs, et puis j'informe donc peut-être les nouveaux auditeurs qu'effectivement, au fil des émissions, on découvre au sein de différents textes comment Ptolémée Césarion a été éduqué à la vie d'homme sage par le script de sa mère Cléopâtre, reine d'Égypte, hein, donc à travers différents récits. Donc aujourd'hui, ça s'appelle le paysan éloquent. Jadis vivait en plein cœur du désert, dans une oasis minuscule, le paysan Kounamout. Certains jours, il chargeait sur ses trois ânes des sacs de marchandises, des roseaux, du sel et du salpêtre, des bois précieux, des peaux de chacal et de léopard, des plantes médicinales, des plumes d'autruche. Il y joignait une cage contenant des colombes, des perdrix et des cailles. Alors, il conduisait ses bêtes vers les contrées cultivées, puis échangeait son chargement contre du froment et de l'orge. Un jour, que le grain allait lui manquer, il dit à sa femme « Il nous reste quelques mesures d'orge. Prends-les, cuis du pain et brasse de la bière. Prends tout le pain dont tu as besoin pour toi et nos enfants. Prépare-moi le reste pour la route. Demain, j'irai vers la ville pour échanger nos marchandises contre du grain. » Le lendemain, le paysan prit le pain et la bière, chargea ses ânes et s'en alla par le désert pour accomplir son long voyage. Il traversa le désert brûlant, les contrées pierreuses, les montagnes et atteignit le fleuve. Là, s'étendait un domaine, celui du fermier Djéoutinak. Avare et malhonnête, bien sûr, il volait autant qu'il le pouvait son seigneur, le haut dignitaire Renzi, qui lui louait le domaine et faisait travailler à mort les ouvriers agricoles qui louaient leurs services. Quand cet homme malhonnête vit arriver les ânes ployant sous leur lourde charge, le feu de la rapacité s'alluma en lui et il décida de s'approprier les animaux et les marchandises, bien sûr, qu'il transportait. Il courut vers sa demeure qui se trouvait au bord de la route empruntée par le paysan pour parvenir au fleuve. La route était étroite et bordée par les eaux d'un côté, de l'autre par un champ d'orge qui appartenait au fermier. Djéoutinac fit apporter par son domestique une belle étoffe brodée. Il la déposa sur la route, laissant tremper une extrémité dans le fleuve et perdant l'autre parmi les tiges d'orge. Le paysan arriva avec ses ânes et s'arrêta devant l'étoffe. « Surveille tes ânes !» cria le fermier. « Malheur à toi si tu abîmes mon étoffe !»« Je ne voudrais pas te faire tort, maître, » répondit le paysan. « Je ferai attention. » Et il voulut contourner les orges. Djéoutinac cria de plus belle. « Comment ? La route passe-t-elle au milieu de mon orge ? Veux-tu donc anéantir ma moisson ? Mais par où faut-il donc que je passe ? » demanda le paysan. « Je ne peux pas passer dans la rivière. Tu ne veux pas que je traverse ton champ ? Je suivais la route habituelle, mais tu as étendu une étoffe. Pourquoi me cherches-tu querelle et m'empêches-tu de passer ? Que t'ai-je fait ? Voilà des années que je passe par ici et que je n'avais jamais vu cela. » Dans le feu de la discussion, le paysan ne faisait pas attention à ses ânes qui arrachèrent une poignée d'orge et se mit à brouter. Le fermier hurla. « Regarde ! Ton âne dévore mon orge. Tu connais la loi. » « J'ai le droit de prendre ton âne. Et qui sait si l'autre n'en a pas fait autant ? Je prends les deux et je confisque toutes tes marchandises. Cela paiera l'amende pour avoir endommagé mes récoltes. »« Mais j'étais sur la bonne route. Tu m'as attaqué, » se défendit le pauvre paysan. « Et maintenant, tu veux me prendre tout ce que je possède pour une malheureuse poignée d'orge ? Mais je connais le seigneur de ce pays et de ce domaine. C'est le haut dignitaire Renzi. Il punit avec juste sévérité les brigands et les voleurs. Devrais-je donc être détroussé sur ses propres terres ?» « Ici, c'est moi qui commande, » gronda le fermier. « Ma parole a plus de poids que la tienne. Personne ne te croira, va-nu-pied. » Il appela ses serviteurs, qui s'emparèrent des ânes et de leur chargement. Quand le malheureux paysan poussa les hauts cris, il saisit une branche de tamaris et l'embattit. Le paysan gémit de plus belle. « Tais-toi, imbécile !» cria le fermier curieux. « Si tu continues, je t'envoie payer du silence éternel. Quand je t'aurai coupé la langue, on verra bien si tu continues. » Tu pourras toujours crier et gémir, personne ne t'entendra. » Le paysan se tut, mais sa juste colère ne l'abandonna pas. Tu m'as battu, tu as volé mes ânes et mes marchandises. Tu voudras encore m'empêcher de me plaindre ? Peut-être penses-tu que je devrais te remercier. Tu m'as tout pris et je devrais t'en être reconnaissant. Je resterai dans ta maison jusqu'à ce que tu m'aies rendu mes ânes et mes marchandises. » Le paysan s'assit près de la demeure du fermier et resta 10 jours à réclamer son dû. Mais Djéoutinac ne faisait pas attention à lui. Le 11e jour, le paysan s'en alla trouver le haut dignitaire Renzi. Il arriva à la demeure de Renzi au moment où ce grand personnage la quittait et s'apprêtait à monter dans son vaisseau officiel. Le paysan se jeta à ses pieds et cria « Justice, Seigneur, je réclame justice contre le fermier Djéoutinac qui m'a détroussé !»« Je n'ai pas le temps à présent, » répondit Renzi. « Mais va trouver mon scribe, dis-lui ton histoire et il consignera ta plainte. » Le paysan conta son histoire au scribe qui écrivait tout fidèlement mot à mot. Le lendemain, Renzi revient, lut cet écrit et le juge lui dit « Seigneur, nous pensons que ce paysan ne dit pas la vérité. Sans doute veut-il quitter Djéoutinac pour changer de maître. Djéoutinac a dû le rattraper et le punir, comme c'est l'usage dans notre pays d'Égypte. Il lui a pris ses biens. Penses-tu, Seigneur, que nous devrions punir le fermier pour un peu de sel et de salpêtre ? Ordonne. » Et nous commanderons au fermier de rendre son bien au paysan. » Renzi réfléchissait et il ne répondit ni oui ni non. Il restait muet. Que les juges décident. Ils n'adressant pas non plus la parole au paysan. Celui-ci ne se laissa pas intimider et s'adressa de nouveau au grand dignitaire. « Ô très grand seigneur, maître, très grand maître parmi les grands, défendeur de l'ordre, que tu navigues sur le lac de la vérité, que le vent de la justice te pousse, que jamais le mal ne t'atteigne, que tu ne connaisses pas la peur et que tes biens prospèrent. » Quand il eut achevé ses louanges, il en vint à son affaire, au dommage qu'on lui avait causé, à la justice qui n'est pas faite seulement pour les riches et les puissants dans ce monde, et à la sagesse qui est la mère de la justice. Le discours du paysan plut à Renzi. Il écouta et repensa à ce que lui avaient dit ses fonctionnaires. Ce n'étaient pas de bons fonctionnaires. Ils savaient qu'on avait spolié ce pauvre homme, et pourtant ils avaient soutenu le fermier malhonnête. Et les petits torts font naître les grandes injustices. Mais Renzi ne formula rien à haute voix. Le lendemain, le haut dignitaire Renzi se fit annoncer au pharaon Nekouaren. Et, quand le souverain l'eut admis en sa présence, il lui parla du paysan qui, dans ses discours éloquents, réclamait justice et demandait la punition du coupable. « Fais venir ce paysan, commanda le pharaon. Ne réponds rien à tout ce qu'il dira. Plus tu resteras muet et plus il parlera. Qu'inscris-moi. Prenne note de toutes ces paroles afin qu'on puisse me les rapporter et que je me réjouisse de son beau langage. J'aime les phrases bien tournées et j'apprécie les brillants orateurs. Fais remettre de la nourriture à sa femme et à ses enfants qu'il ne souffre pas de la faim. Remets-lui aussi du pain et de la bière, mais fais en sorte qu'il ne sache pas que cela vient de toi. Ceci est ma volonté et mon ordre. » Le paysan reçut chaque jour 10 miches de pain et 2 cruches de bière sans jamais savoir d'où cela lui venait. Sa femme non plus ne savait pas pourquoi les serviteurs du maître lui apportaient chaque jour à l'oasis 3 mesures d'orge. Elle ne manquait de rien, mais se faisait beaucoup de soucis pour son époux, car ni l'abondance ni la richesse n'auraient pu le remplacer. Le paysan se rendait chaque jour à la demeure de Renzi et réclamait toujours son dû et la justice. « Pourquoi ne me viens-tu pas à mon aide? Pourquoi ne soutiens-tu pas la probité et encourages-tu l'infamie? J'ai confiance pourtant en ta sagesse. Tu sais reconnaître un homme véritablement honnête. » Puis il vantait la bonté de Renzi, célébrait la sagesse et l'équité du pharaon, protecteur de la vie de ses sujets. Les scribes inscrivaient fidèlement ses paroles et, chaque soir, leur chef les lisait au pharaon. Le souverain écoutait attentivement l'éloquence du paysan, lui procurait un grand plaisir. Pendant 9 jours, le paysan, chaque fois, tint ses mêmes discours. Et au soir du 9e, il dit à Renzi : « Voilà 9 jours que je parle devant toi et que tu ne m'écoutes pas. Puisque personne sur cette terre ne veut me prêter une oreille attentive, je vais me rendre au royaume des morts. Sans doute y règne-t-il une plus grande justice qu'en ce monde. Demain, tu ne me reverras pas. » Et le paysan s'éloigna de la demeure du haut dignitaire, résolu à mettre fin à sa misérable vie. Renzi envoya 2 serviteurs pour le ramener. Le paysan était pâle, il avait peur d'avoir prononcé des paroles imprudentes et d'être puni de son audace. « Ne me punis pas, vénéré Seigneur, et laisse-moi aller pour que je puisse mettre fin à ma vie. Dans mon désespoir, j'accueillerai la mort comme l'égaré dans le désert reçoit de l'eau du ciel, comme le nouveau-né reçoit le lait de sa mère. Pour un infortuné comme moi, la mort est le plus précieux des biens, la seule délivrance. » Mais le haut dignitaire Renzi rassura le paysan. « Ne crains rien, homme courageux. Le pharaon lui-même s'intéresse à toi. Les scribes ont ainsi secrètement tout ce que tu as dit sur des rouleaux de papyrus et les ont lus à Pharaon. Attends-moi ici. Je veux me rendre auprès du souverain et t'en rapporter la sentence. » Le pharaon se fit lire les derniers feuillets du plaidoyer du paysan. Ils lui plurent et il dit « Et maintenant, Renzi, digne serviteur, je t'autorise à rendre la sentence. » Je sais qu'elle sera équitable et que tu ne puniras pas le malhonnête du fermier Junita comme il convient. Je remets entre tes mains le jugement, la punition et la récompense. Ceci est ma volonté et mon ordre. » Renzi retourna dans son palais et envoya 2 serviteurs chercher le fermier. Puis il se demandait un scribe et dut dresser la liste de tous les biens du fermier. Ses serviteurs, ses ânes, ses porcs et sa volaille, ses meubles et ses outils, ses champs de céréales et la belle maison qui habitait avec sa famille, rien ne fut oublié. Puis, il rendit son jugement. « Tous les biens du fermier Djéoutinak sont attribués au paysan Kounanoup, en réparation du tort qui lui a été fait. Le fermier deviendra un simple paysan. Ses 2 bras sont le seul bien qui lui reste pour travailler chez Kounanoup, afin de se nourrir. Ainsi en ai-je décidé. » Kounanoup envoya chercher sa femme et ses enfants. s'installa dans son domaine et y vécut dans la paix et la joie. C'est ainsi que le courageux Kunanu fut récompensé de son éloquence, son opiniâtreté, son honnêteté et sa bonne foi.
C'est le moment de se quitter, c'est la fin de l'émission, c'est ça?
Ben oui, oh, tout a une fin.
Triste. Hein.
Enfin, pour aujourd'hui, Emily.
Oui, pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous dans...
15 jours, comme d'hab, tous les 15 jours, on est ici.
Même jour, même heure, voilà. Avec Miss Dominique qui vous racontera des histoires, une petite idée.
Tout. J'ai décidé que je vous ferai languir jusqu'à la fin maintenant. C'est...
Voilà. Obligé d'écouter.
Sinon, je crois qu'on peut réécouter aussi les émissions éventuellement.
Sur notre site fréquencemistral.com.
Voilà.
Merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt tout le monde. Merci.